Les grands feuilletons de France Culture.
Le crime d'Orcival.
D'après l'œuvre d'Émile Gaboriau. Adaptation Henri Weitzman.
Aujourd'hui, 11e épisode, Jenny Fancy se révolte.
Résumé du 10e épisode.
Berthe et Hector sont devenus amants.
Mais elle exige qu'il rompe avec Jenny.
Bien qu'il lui affirme que cette liaison assure leur propre sécurité vis-à-vis de Sauvrosy.
Celui-ci, qui est parvenu à sauver une partie de la fortune de Trémorel, projette de lui faire épouser la fille du maire d'Orcival.
Laurence Courtois.
Richement dotée.
Le mariage étant le seul motif plausible de rupture devant lequel Jenny se résignerait,
Hector lui fait part de son intention.
Mais Jenny ne croit pas à la sincérité de son amant et fait parvenir à Sauvrosy un mot pour le rencontrer.
Hector étant reçu fréquemment chez les Courtois, et Sauvrosy ayant mis sa femme au courant du projet de mariage,
celle-ci déclare au comte qu'elle fera tout pour l'empêcher.
Corbeil, à l'hôtel de la Belle Image.
Entrez. Ah, monsieur Sauvrosy.
Oui, madame.
Merci d'être venu, monsieur. Vous êtes très bon.
Vous souffrez?
Oh oui, monsieur, cruellement.
Du courage, madame. Il vous faut beaucoup de courage.
Vous savez donc?
Non, je ne sais rien, car sur votre prière, je n'ai rien demandé à monsieur de Trémorel. Mais je devine...
Il ne veut plus me revoir. Il me chasse.
Voyons, mon enfant, soyez forte. Sachez vous résigner. Hélas, votre liaison est comme bien des liaisons semblables, que le caprice noue, que la nécessité rompt. On n'est pas éternellement jeune. Une heure sonne dans la vie où, bon gré mal gré, il faut écouter la voix impérieuse de la raison. D'ailleurs, Hector ne vous chasse pas, vous le savez bien. Mais il est à présent dans la nécessité d'assurer son avenir, d'asseoir son existence sur les bases plus solides de la famille. Il sent le besoin d'un intérieur.
Vous croyez cela, monsieur? Vous croyez qu'Hector s'inquiète de l'avenir? Lui, songeait à une famille? Il n'a jamais pensé, ne pensera jamais qu'à lui. Est-ce que s'il avait eu du cœur, il serait allé vivre à vos crochets? N'avait-il pas deux bras pour gagner son pain et le mien? J'avais honte, moi qui vous parle, de lui demander de l'argent, sachant que ce qu'il me donnait venait de vous.
Mais il est mon ami, ma chère enfant.
Agiriez-vous comme lui? Vous, monsieur Sauvrosy? Non, sûrement. Oh, je le connais, moi. Il ne m'a abusé qu'une fois. Le matin où il est venu m'annoncer qu'il allait se supprimer. J'ai été assez bête pour le croire mort et pleurer. Lui se tuer. Allons donc. Il a bien trop peur de se faire mal. Il est bien trop lâche. Oui, je l'aime. Oui. C'est plus fort que moi. Et je ne l'estime pas. C'est trop souvent notre sort à nous autres. De ne pouvoir aimer que les hommes que nous méprisons.
Mais Hector ne vous abandonne pas. Hector vous assurera une petite position.
Je me moque bien de sa position. Est-ce que j'ai besoin de lui? Tant que j'aurai 10 doigts, et de bons yeux. Je ne serai pas à la merci d'un homme. Il m'a fait changer de nom. Il a voulu m'habituer aux grandeurs, la belle affaire. Il n'y a plus aujourd'hui ni Miss Fancy, ni Opulence. Mais il y a encore Pélagie, qui se charge de gagner ses 50 sous par jour pour manger.
Mais non, vous n'aurez plus besoin de...
Besoin de quoi? De travailler. Et cela me plaît à moi. Je ne suis pas une fainéante. Je reprendrai mon existence d'autrefois. Pensez-vous que j'étais bien malheureuse? Je déjeunais d'un morceau de pain et d'un sou de frites. Je n'en étais pas moins fraîche. Le dimanche, on me conduisait à dîner au Turc pour 30 sous. C'est là qu'on s'amusait. J'y ai plus ri en une seule soirée que depuis des années que je connais Trémorel.
Mais puisque vous dites l'aimer...
D'un amour qui me fait mal et que je souhaite voir s'éteindre. Mais j'ai ma fierté, moi aussi. Et je ne souffrirai pas qu'il m'abandonne ainsi. Oh non, il ne sera pas dit qu'il m'a quittée pour une autre maîtresse. Je ne le veux pas.
Je vois, ma chère enfant, que vous ne m'avez ni compris, ni même écouté. Je vous l'ai dit, Hector a un mariage en vue.
Lui? Lui, se marier? Et si c'était vrai, pourtant?
Je vous l'affirme.
Non. Mille fois non. Ce n'est pas possible. Il a une maîtresse, je le sais. J'en suis sûre. J'en ai la preuve. Une lettre que j'ai trouvée dans sa poche il y a plus de 6 mois. Elle n'est pas signée, c'est vrai. Mais elle ne peut venir que d'une femme.
Une lettre?
Oui. Qui ne laisse pas de doute. Vous vous demandez pourquoi je ne lui ai pas parlé. Je n'ai pas osé, voilà. Je l'aime. Et j'ai été lâche. Je me suis dit, si je parle, et si vraiment il l'aime, l'autre, c'est fini, je le perds. Entre le partage et l'abandon, j'ai choisi le partage. C'est ignoble, n'est-ce pas? Je me suis tue. Je me résignais à l'humiliation, je me cachais pour pleurer, je l'embrassais d'un air riant, pendant que sur son front je cherchais la place des baisers de l'autre. Et puis je me disais, il me reviendra, n'est-ce pas? Ce n'est peut-être qu'une passade. Pauvre folle! Et vous voudriez que je ne le dispute pas à cette femme qui m'a tant fait souffrir?
Que voulez-vous donc faire, ma petite?
Oh, je n'en sais rien. Tout. Je n'ai pas parlé de cette lettre, mais je l'ai gardée. C'est mon arme à moi. Je m'en servirai. Et quand je le voudrais bien, je saurai de qui elle est. Et alors?
Vous forcerez Trémorel, si bien disposé pour vous, à des moyens violents.
Lui? Mais que peut-il contre moi? Je m'attacherai à lui, je le suivrai comme une ombre. J'irai partout crier le nom de l'autre. Il me fera jeter à Saint-Lazare. Et après, on en sort. Je n'ai rien à craindre. Je n'ai ni amis, ni parents, ni personne au monde qui se soucie de moi. Voilà ce que c'est que de prendre ses maîtresses dans la rue. Je suis tombée si bas que je le défie de me pousser plus bas encore. Aussi, monsieur, vous qui êtes son ami, croyez-moi. Conseillez-lui de me revenir.
Calmez-vous, madame. Écoutez-moi. Si je vous donne ma parole, vous m'entendez bien, ma parole d'honneur de vous dire la vérité, me croirez-vous?
Oui. Vous, je vous croirai.
Alors je vous jure que Trémorel espère épouser une jeune fille de bonne famille. Dont la dot assure son avenir.
Il vous le dit. Il vous le fait croire.
Dans quel but, voyons? Je vous assure que depuis qu'il est au Valfeuillu, il n'a eu, il ne peut avoir d'autre ami que vous. Il vit dans ma maison, comme mon frère, entre ma femme et moi, et je pourrais dire l'emploi de toutes les heures de ses journées aussi bien que les miennes.
Mais alors,
Qu'avez-vous, mon enfant? Allons, remettez-vous. Tenez, montrez-la-moi, cette lettre.
À vous?
Vous dites?
Je veux dire, ni à vous, ni à personne.
Allons, soyez raisonnable, montrez-la-moi.
Pas aujourd'hui, une autre fois. Vous êtes trop curieux, là.
Ne faites pas la gamine. Je veux voir cette lettre.
Impossible. Je ne l'ai pas, ici.
Mais où est-elle?
Mais chez moi, à Paris.
Alors allons-y tout de suite, partons.
Non.
Vous allez me donner cette lettre ou je vous...
Oh, mais vous me faites mal. Ah, oh, mais lâchez-moi.
Une dernière fois.
Non, lâchez-moi. Oh, lâchez-moi, je vous en prie. Je vais vous la donner.
Bien.
C'est singulier. Je suis pourtant sûre de l'avoir rangée dans ce tiroir.
Petite misérable! Tu voulais avoir 20 billets. Je vais te le faire rendre!
Pourquoi? Monsieur, pourquoi? Pourquoi?
Dieu, c'est son écriture. Ne va pas demain, un petit bout, ou plutôt reviens avant déjeuner. Il vient de me dire un instant qu'il lui faut aller à Menin. Qu'il rentrera tard, toute une journée. Un verre d'eau, s'il vous plaît.
Monsieur.
Laissez-moi.
Ah, monsieur, pardon. Je suis une malheureuse. Je me fais horreur.
Comme voulez-vous.
Mais cette lettre... Je devine, j'avais...
Dieu me pardonne, ma chère. Vous avez supposé que ma femme... Non, mais elle est bien bonne. Non, vrai, c'est la meilleure. La vérité est ailleurs, ma petite. Et ne regarde que moi et Noël. La pauvre. Allez, merci quand même. Ah, tenez, prenez toujours ces quelques centaines de francs de la part d'Hector. Et soyez rassurés, on veillera à ce que vous ne manquiez de rien. Mais croyez-moi, laissez-le se marier.
Au Val Feuillu, dans la salle à manger, à l'heure du dîner.
Oui, tu as raison, Hector. Je sais que c'est stupide de tenter de poursuivre une bête qui vous échappe. Finalement, on fait des kilomètres sans s'en apercevoir et on rentre comme un imbécile, bredouille, et sous une pluie torrentielle. Je sens que je vais en être quitte pour un bon rhume.
Je vais te faire préparer un grog, bien chaud.
Si tu veux, oui. Je le prendrai au lit, j'aurais dû t'écouter ce matin, Hector, quand tu m'as déconseillé cette randonnée.
Je pensais même que le grain éclaterait beaucoup plus tôt. Oh. Cela aurait mieux valu pour toi, tu aurais fait demi-tour.
Certes. Enfin, ce n'est pas bien grave. Une bonne nuit, on n'en parlera plus. Allez, très cher, je vous quitte.
Je vais te faire monter le grog.
Vous avez dû vous absenter d'Orcival, monsieur Plantard.
Mais pendant une semaine, je crois.
Oui, j'étais par Mons et par Vaux. Mais dites-moi, mes amis, j'ignorais totalement que notre pauvre Sauvresie était alitée.
Hélas.
Est-ce grave?
Oh, mais oui.
Apparemment.
C'est grave.
Oh. Mais qu'a-t-il? Comment est-ce arrivé?
Mais c'est très banal.
Oh, c'est bête comme tout, mon cher Plantard. Le soir où il est tombé des hallebardes.
Il a plu toute la nuit, oui. Je me souviens.
Eh bien, il est rentré de la chasse trempé comme une soupe. Il s'est mis au lit et dans la nuit, la fièvre s'est emparée de lui.
Mais une très forte fièvre. Il a déliré pendant 3 jours. Oh, et le troisième jour, il criait « Emportez-moi, emportez-moi !» Il ne voulait pas rester dans sa chambre. Et sur les conseils du médecin, on lui a dressé un lit dans le petit salon qui donne sur le jardin.
Et maintenant, comment est-il?
Oh, il y a eu rémission.
Mais entre nous, le docteur n'est pas très optimiste.
Il a fait une première rechute, mais ça s'est calmé.
Mais une seconde est à craindre, qui aggraverait son cas. Je suis allé rendre visite à Madame Sauvrosy. La chère femme ne quitte pour ainsi dire pas le chevet de son mari. Et le comte de Trémorel, lui aussi, veille son ami pendant des heures. Ils se relaient l'un l'autre.
Tous deux sont admirables de dévouement.
J'irai leur serrer la main en sortant de chez vous. Pauvre Sauvrosy.
Cela leur fera infiniment plaisir à tous les trois.
Quand ce n'est pas son tour de garde, le comte Hector passe à la mairie.
Où il vient nous voir ici, chez nous.
Et pour nous mettre au courant de l'état du malade.
Un charmant homme que Monsieur de Trémorel.
Oui, oui.
J'espère qu'il pourra être des nôtres à la réception de Madame d'Arfeuil à Fontainebleau. Laurence en serait ravie. Mais évidemment, cela dépend de l'évolution de la maladie de Monsieur Sauvrosy.
Certes. Eh bien, mes amis, je vais donc faire un crochet par le Valfeuillu avant de regagner mes pénates.
Je vous accompagne, mon cher juge de paix, car je dois m'en retourner à la mairie.
Ah, madame, mes hommages.
Au revoir, monsieur Plantard. À bientôt.
À bientôt. Au revoir, ma chère.
Sous la verrière de la véranda.
Il dort ?
Bien sûr. Quelque chose t'inquiète ?
Plusieurs choses m'inquiètent. L'autre soir, à la nuit tombante,
oui.
Quand nous nous sommes rejoints comme à présent pendant son sommeil, tous les domestiques étaient couchés.
Je le présume. Mais pourquoi cette question ?
C'est que pendant ce temps, quelqu'un est allé dans le jardin et en est rentré.
Tu en es sûr ?
Sûr et certain. Il y avait de la neige et la personne en a ramené sur ses chaussures. De la neige a fondu sur les dalles du vestibule.
L'eau que tu as vue était peut-être là depuis longtemps.
Non, il n'y avait rien quand tu es venu me retrouver sous la verrière.
C'était sans doute un domestique.
Je ne le crois pas. Un domestique aurait remis les verrous, or ceux-ci étaient tirés. Et c'est cependant moi qui avais fermé la porte. Je me rappelle parfaitement les avoir poussés. De plus, les flaques d'eau ne sont pas allées plus loin que l'entrée du petit salon. Si c'était lui... pour nous épier.
Tu es fou. Clément dormait lorsque je suis sortie. Et il dormait encore quand je suis revenue. Et d'un sommeil profond.
Tu as regardé ses sandales ?
Non, pourquoi ? Elles étaient et sont en permanence sous le lit, comme toujours.
On aurait pu voir si elles étaient mouillées. Enfin, espérons. Ah, j'oubliais, pendant que tu te reposais, dans la soirée, nous avons eu la visite du juge de paix, Monsieur Plantard.
Ah ?
Il n'est resté que 2 ou 3 minutes, je n'ai pas voulu te déranger.
Tu as bien fait. C'est un homme discret, un peu ours, mais un vieil ami de Sauvrosy, de son père surtout, dont il était l'avoué. Il a pu bavarder avec Clément ?
Oh, pas longtemps. Je me suis effacé par politesse. Il est reparti en nous souhaitant du courage.
Cela tombe bien, car je vais te demander de t'armer de courage.
Quoi donc ?
Tu m'as bien dit que le maire d'Orcival t'avait proposé de l'accompagner, lui et sa famille à Fontainebleau, chez d'Arfeuil, et que tu avais accepté.
Oui, et tu n'as pas fait d'objection. Il m'a demandé cela comme un service. On doit atteler 4 chevaux à une grande voiture de chasse. Courtois me sait habile à conduire à grande guide. Il n'ignore pas que le docteur Rénal, venu de Paris, va loger 3 jours au château à partir de demain pour surveiller son malade, et que par conséquent, je ne te laisse pas seul.
Tout cela est exact, mais toute réflexion faite, il me déplaît de te savoir passer une journée entière avec Laurence. J'aimerais que tu reviennes sur ta décision et que tu écrives au Courtois que tu ne peux te résoudre à aller en partie de plaisir pendant que l'existence de ton ami est en péril.
C'est ridicule et mal poli.
Mais non, ils comprendront fort bien. Jure-moi que tu vas leur envoyer un mot dans ce sens.
Non, je n'écrirai pas. J'irai moi-même dès demain m'excuser de vive voix, par simple correction.
Entendu. Mais ne t'attarde pas trop. Thank you.
quelques jours plus tard.
Tes promenades à cheval te font vraiment du bien. Depuis quelques jours, tu rayonnes de santé.
Effectivement. Tu sais, le manque d'exercice, les heures passées assis au chevet de Sauvresy, il était temps que je me retape un peu, comme on dit. Et comment va Clément?
Pour le moment, c'est stationnaire. Le docteur Rénal et un de ses confrères de Paris sont auprès de lui. Attendons la fin de la consultation. Oh, le joli brin de bruyère que je viens d'ôter de ta boutonnière. Une variété rare.
C'est ce qu'il m'a semblé, bien que je ne m'y connaisse pas.
Serait-ce indiscret de te demander qui te l'a donné, ce brin?
Aucunement. C'est un cadeau de notre excellent juge de paix, Monsieur Planta.
Ah, cela me paraît bien étrange. Car tout le monde sait que Monsieur Planta, horticulteur, amateur et maniaque, n'a jamais donné une fleur à qui que ce soit. Sauf à Mademoiselle Laurence Courtois. C'est donc Mademoiselle Laurence Courtois qui t'a orné la boutonnière. Et donc tu la revois, alors que tu m'avais promis d'attendre. Je suis folle de m'en étonner. Seulement aujourd'hui, je te déclare que tu n'épouseras pas Laurence.
Oh, j'en ai assez à la fin d'être tyrannisée de la sorte. Eh bien oui, je vois Laurence, je la vois et je la reverrai. Parce que je n'ai pas d'avenir et que ce mariage m'en assure un. Je me marierai donc, et je te le répète, je me marie avec une dot d'1 million. Voilà mon épousée. Et la preuve que seule la dot m'intéresse, c'est que si demain tu me trouvais une femme avec 1 200 000 francs au lieu 1 million, c'est elle que j'épouserai, non, Mademoiselle Courtois?
C'est bien vrai, cela?
Je te l'ai juré 100 fois.
Tu n'aimes pas Laurence?
Je n'ai jamais aimé et je n'aimerai jamais que toi. Tu le sais bien.
Écoute, je ne saurais là, froidement et d'un seul coup, me résigner à un tel sacrifice. Mais laisse-moi quelques jours encore pour m'habituer à cette idée de ton mariage possible. Je te demande seulement d'attendre, de patienter un peu avant de te déclarer. Tu me dois bien cela. Laisse Clémence rétablir.
Ah, ça par exemple, je ne m'y attendais pas. Hein, tu me comprends enfin. C'est que tu m'aimes vraiment.
Qui Hector va-t-il épouser? Suivez-nous et vous le saurez.
C'était, d'après l'œuvre d'Émile Gaborio, adaptée par Henri Weitzman,
le 11e épisode du crime d'Orcival.
Avec Marie-Hélène Breya, Josette Boulva, Serge Grand, Yves Fabrice, François Martouret, Fred Persson, Emmanuel Weiss.
Bruitage, Dominique Roubert. Chef opérateur du son, Guy Senou. Collaboration technique, Edwige Philippona. Assistant de production, Didier Lagarde. Réalisation, Jeanne Rollin-Reyes.
Cet épisode a été diffusé pour la première fois sur France Culture le 24 août 1984. Vous pourrez le réécouter en ligne ou le télécharger, ainsi que les précédents, sur le site franceculture.fr à la rubrique de l'émission. Avant d'écouter le prochain épisode, peut-être aurez-vous la curiosité de lire ou de relire d'autres œuvres d'Émile Gaboriau. Émile Gaboriau, considéré comme le créateur du roman policier français. Des romans, Dossier 113, L'affaire Le Rouge, La corde au cou, des nouvelles, Le petit vieux des Batignolles. Mais évidemment, il vous est tout à fait interdit de lire Le crime d'Orcival, ce qui gâcherait le plaisir de le découvrir en feuilleton ici même. Demain, à la même heure, le 12e épisode, La maladie de Sauvresy.